quatrième livre, en fait, c'est, on pourrait dire, c'est un livre qui est consacré essentiellement à nous rapporter un échec gigantesque. C'est absolument terrible. Sefer Bamidbar, du point de vue du récit, il se rattache à la fin de Sefer Shemot. Parce qu'à la fin de Sefer Shemot, on était au Sinaï, on avait entendu les Aseret HaDibrot. Essentiellement, on est toujours dans le désert du Sinaï. Et puis ensuite, la fin de Sefer Shemot est consacrée à la construction du Mishkan. Tout le Sefer Vayikra est consacré aux Korbanot et à toutes ces choses-là. Donc, il nous parle pas du tout de la suite des pérégrinations d'Ibn Israël. Et on reprend les pérégrinations d'Ibn Israël. Comme vous voyez, le texte commence par Yedaber Hashem el Moshe. Et on est Bemidbar Sinaï. Voel Moed Bechad Lachod Hashani, on est le premier du deuxième mois de la deuxième année, depuis qu'on est sorti en Égypte, sorti d'Égypte. Donc on est au tout début tout de suite après la sortie d'Égypte. Et d'une certaine manière, on s'attend à ce que voilà, les Bnei Israël sont à quelques jours, merci beaucoup. Les Bnei Israël sont à quelques jours de l'entrée en Eretz Israël. Ils sont au Sinaï, ben encore aujourd'hui, ils sont au Sinaï, ils doivent entrer en Eretz Israël, c'est quoi? 11 jours, enfin, une dizaine de jours. Est juste avant. Et puis, il va se passer la tragédie, en fait. C'est que les Bnei Israël, au moment du don de la Torah, bon, ça on en a déjà un peu parlé, mais au moment où Hachem donne la Torah, c'est-à-dire au moment où Moshe Rabbeinu monte sur le Sinaï pour apprendre la Torah qu'il va enseigner aux Bnei Israël, les Bnei Israël font le veau d'or. Et quand Hachem réagit au veau d'or, il réagit en disant à Moshe Rabbeinu, laisse-moi, je vais détruire ce peuple. Donc là, l'Israël est condamné à mort. Et je vais continuer avec toi. Je vais refaire un nouveau peuple. Et au lieu de partir avec Abraham, Isaac et Jacob, il partira avec Moshe. Et comme vous savez bien, Moshe Rabbeinu n'a pas accepté. Il a même joué gros, quoi. Et il a obligé Hachem à pardonner aux Bnei Israël. Il a continué avec les Bnei Israël. Gaon de Vilna dit qu'en réalité, c'est pas que Hachem a pardonné, mais qu'il leur a donné un sursis. Et dans ce, à peu près à la moitié du Sefer Bamidbar, le sursis va tomber, parce que les Bnei Israël vont écouter les Meraglim, les 10 Meraglim qui disent qu'il faut pas aller en Eretz Israël, qu'on peut pas y aller, qu'on pourra pas y arriver, on pourra pas réussir, etc. Et donc là, ça fait tomber le sursis. Tombe le sursis, ça veut dire quoi? Les Bnei Israël sont condamnés à mort. Alors effectivement, ils sont condamnés à mort, mais la condamnation à mort, elle ne vient pas pour sanctionner obligatoirement enfin, le problème des explorateurs. C'est le sursis qui est tombé, là. Ça veut dire que c'est à cause du veau d'or que tout le monde meurt. Alors pourquoi, alors, dans le veau d'or, ce sont les hommes qui ont fait le veau d'or. Les femmes n'ont pas voulu participer au veau d'or, mais les hommes leur ont arraché de leurs bijoux. Arracher les bijoux. Donc, par conséquent, les femmes n'ont pas été condamnées à mort. Seuls les hommes sont condamnés à mort et il y a une halakha qui dit que la condamnation à mort, elle ne s'applique que aux gens qui ont plus de 20 ans. Et donc, les Bnei Israël qui ont plus de 20 ans, c'est-à-dire ceux qui étaient adultes au moment de la sortie d'Égypte. Cette génération qui a vécu la sortie d'Égypte, qui a vécu le passage de la mer, qui a vécu le matin de Torah, cette génération est condamnée à mort. Tout le monde va mourir, à l'exception de deux personnes, Yoshua et Caleb. Ce sont les deux explorateurs qui, eux, avaient dit que, évidemment, il fallait faire ce que Hachem nous disait et il fallait aller en Eretz Israël. Donc pendant 38 ans, à Tisha B'Av, les hommes vont creuser une tombe, chacun va creuser sa tombe dans le désert, et ils vont passer la nuit dans la tombe, et le matin, une partie d'entre eux ne se relèvera pas. Donc ils vont être enterrés dans le désert, on le sait, ils vont disparaître complètement. La 40e année, c'est-à-dire 38 ans après, ben c'est terminé, ils sont tous morts. Alors, le clan Israël continue, mais simplement, c'est une nouvelle génération qui prend la place de l'ancienne génération. Sauf qu'on a, disons, du point de vue de la démographie, une situation étrange, puisqu'on a un peuple de veuves. Bon, il y a les veuves de tous ces gens qui sont morts. Ils sont les mères de la génération des hommes. C'est-à-dire, en fait, les gens, ces gens-là, ils vont se marier et tout, mais ils ont leur mère qui représente la génération d'avant. Bon, mais c'est le récit, avant comme après. D'ailleurs, les Israéliens ne vont pas arrêter de se plaindre et ils vont sans arrêt faire référence à un fantasme de « on va retourner en Égypte ». En Égypte, on va dérouler à l'envers le film de la sortie d'Égypte, quoi. Tous les miracles, etc. On va tout défaire, quoi, quelque part. On va retourner en Égypte. C'est un fantasme complet. C'est comme ça qu'on lit le Sefer Bamidbar. Donc, il faut dire, c'est important, il faut dire qu'il existe une autre lecture, une lecture radicalement différente, qui est une lecture mystique, qui est essentiellement la lecture des chassidim. Les chassidim, ils lisent ce livre de façon complètement différente. Eux, ils racontent l'expérience spirituelle du peuple juif, en fait. Un peuple qui va vivre autour du Mishkan, avec en son centre la présence divine, finalement, et les Bnei Israël qui campent autour du Mishkan. Et ces récriminations et tout ça, c'est pour les Chassidim, c'est une espèce d'amour déçu dans la relation avec Hachem. Cette génération, elle s'appelle dans la Kabbalah, et aussi donc c'est repris par les Chassidim, Dor Déa. Déa au sens de date. La génération de la grande connaissance, si vous voulez. De date, c'est le discernement, la grande connaissance. Raconte tout à l'envers. Tout ce qui, pour nous, quand on le décrit, est un désastre, les fautes, etc. Tout ça, C'est des racines, mais il explique autrement. Alors peut-être c'est important de, si vous voulez, on peut dire que on est dans le commencement de l'histoire juive, quoi. Avant, c'était l'histoire de l'exil, et puis on est sorti de l'exil. Puis on est à plus 50 jours, on a reçu la Torah. D'accord? Plus 50 de sortie d'Égypte, c'est la période du Homer, 50 jours, on reçoit la Torah et puis immédiatement on fait le veau d'or. Donc voilà, on est dans deuxième année, la sortie, deuxième mois. Et puis tout commence par un recensement. Alors, ce recensement, il est étrange, parce que comme dit Rashi, regardez le Rashi. Rashi dit, Mitoch chibatan lefanav, moné otam kol sha'a. Par amour pour les Bnei Israël, il les compte sans arrêt. Disons, révérence gardée, si vous voulez, c'est harpagon, quoi. Il est en train de compter son or, quoi. Il compte ce qu'il aime. Hachem compte l'Ebné Israël qu'il aime. Pourquoi est-ce que Rachid dit ça? C'est parce que chez Yassoum et Mitzrayim, Manaan, quand ils sont sortis d'Égypte, il les a comptés. Kshenaflu ba Egel, quand ils se sont cassés la figure au veau d'or, ben il les a recomptés. Il voulait savoir combien il en reste. Quand il veut installer sa présence divine parmi eux, c'est-à-dire lorsqu'il leur donne la construction du Mishkan, il les compte. Comment c'est marqué? Be'echad ben Nissan, ukam ha-Mishkan. Le premier Nissan, le Mishkan a été dressé. On a fini de le construire, on l'a dressé. Be'echad be'iyar. Et donc, Nissan Iyar. Et le premier Iyar, c'est-à-dire un mois après, il les a comptés. Qu'il n'arrête pas de compter les ministres. En si peu de temps, en un mois, qu'est-ce qui peut déjà bouger? Bon, il n'y a pas eu de tsunami, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, eux, encore? Pourquoi compter? Quelle information est-ce qu'on attend d'un nouveau compte? C'est donc pas du tout une information, puisque il s'est rien passé de nouveau. Ça va donner le même résultat, d'ailleurs. Trente-huit ans plus tard, il va les recompter. À la fin du secteur, il va les recompter. Dans les différents comptes ici, il y a en particulier un compte qui se fait avec le fameux Marsita Shekel. Les Bnei Israël, comme vous savez, ils reçoivent l'ordre de donner aussi pour la construction du Mishkan, mais ils vont donner de l'argent, l'argent métal, mais bon. À ce moment-là, quand on parle de donner de l'argent, c'est de l'argent métal. C'est pas obligatoirement des pièces frappées, pas obligatoirement. Peut-être c'est des pièces frappées, mais ce qui est important, c'est la quantité d'argent qu'il y a dedans, comme c'était encore le cas avant que on passe à à des pièces symboliques, quoi, qui... Pour parler du livre, c'était vraiment un certain poids d'argent. Alors, il y a un shekel qui s'appelle shekel à Kodesh, qui a un certain poids d'argent, qui est défini par en disant que on définit un certain volume. Ce volume, il est déterminé par un certain nombre de grains d'orge. Prenez des grains, quelques grains, regardez le volume que ça donne, vous remplissez ce volume d'argent, vous pesez l'argent en question, c'est ça un shekel. C'est ça le shekel du Beth Amikdash. Quand on parle de shkalim dans la Torah à ce moment-là, en tout cas, c'est de ce poids d'argent-là qu'on parle. Alors, le shekel qui leur avait été prescrit, c'était plus exactement le demi-shekel. Il avait deux fonctions. Il servait. Il y a un problème de savoir si c'est le même ou etc. Je ne peux pas entrer maintenant dans le détail. Il servait la base des poteaux du Mishkan. Le Mishkan, il était construit avec des poteaux, entre les poteaux des tentes, etc. Ces poteaux, pour tenir debout, en quelque sorte, ils étaient enchâssés dans de l'argent. C'est assez difficile à comprendre. Je vois pas très bien l'argent. C'est pas très solide. Surtout si tu prends de l'argent pur. Bon, je sais pas. Peu importe. En tout cas, la Torah, elle dit que les socles en question, Adanim, ça s'appelle, ils sont en argent. Mais en même temps, on va compter le nombre de demi-shekels ou le nombre de shkalim, on va compter, ça va nous donner une information sur le nombre de personnes qui sont en âge d'être comptées. Et alors, qu'est-ce qui va définir l'âge auquel on va les compter? Dans les deux des comptes, le compte d'ici et le compte de plus 38, dans 38 ans, les nés Israël sont dans les deux cas à la veille d'entrer en Eretz Israël. Dans les deux cas. Donc, dans les deux cas, ils sont à la veille de faire une guerre. Et donc, on va compter les gens, plus de 20 ans, qui sont les soldats dont les Bnei Israël vont disposer pour aller faire la guerre contre les Cananéens, quand ils s'étaient préparés à une guerre qui n'aura pas lieu dans ce compte-là, mais ils se préparent à la guerre qui, elle, va avoir lieu à la fin du Sefer Bamidbar. Ils se préparent vraiment à la guerre, préparent à la guerre. Et donc, ce sont des légions qui sont, les Israël sont organisés en légions pour faire la guerre. Il y a une énorme différence entre le compte qui a été fait avec le Marsita Shekel et le compte qui est fait ici. Alors regardez-le, la suite dans Rashi. Pasouk dit: tu vas les compter, ce où est roche pour la date béné Israël. D'ailleurs, vous voyez, quand on veut dire compter, on dit ce où est roche. Littéralement, ce où est roche, ça veut dire élever la tête. C'est-à-dire, on va compter les têtes, évidemment, mais on va les compter en quelque sorte quand ils ont levé la tête. Ça veut dire, lever la tête, c'est aussi, donner du kavod à quelqu'un, ça veut lui dire de prendre une posture de kavod. Ce où est roche pour la date béné Israël, alors ils vont compter le mishpechotam, le vetavotam, le memispar shemot, kol zachar le gulgulotam. Yami ben Esrim Shana, Vamala, à partir de 20 ans, Kol Yotze Sava, Béisraël, tous ceux qui vont partir en guerre, font partie de l'armée, Tifkedu Otam, tu vas les compter. Le Tzivotam, pour leur légion, Ata ve Aaron. Et qui est-ce qui va compter? Moshe et Aaron, plus une tierce personne, Vitrem, avec vous il y aura Ish-Ish le Maté, Ish-Rosh le Betavotav, ou. Le compte ici, c'est un compte assez exceptionnel. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on compte? Les gens vont venir et ils vont se présenter devant Moshe et Aaron. Et ils vont décliner leur nom, leur appartenance, familiale et leur appartenance à la tribu. Donc il va y avoir une espèce d'échange, même s'il est avec très peu de mots. Donc ils sont, c'est une espèce de privilège, quoi. Ils vont être mis en présence de Moshe Rabbeinu et d'Aaron aussi. Et comme c'est un peu impressionnant de se retrouver devant Moshe Aaron, si ça se trouve, ils n'arriveront pas à ouvrir la bouche, alors il y a une tierce personne qui est là, qui est quelqu'un de leur tribu, ou qui se sent à l'aise. Il y a quelqu'un qui nous connaît, quelqu'un que je fréquente, etc., et qui va encourager, qui va permettre de parler vraiment. Donc, si vous voulez, le décompte en question, c'est une expérience effectivement extraordinaire, parce que sans cela, Moshe Rabbeinu, c'était probablement assez difficile de l'approcher. Pas parce qu'on mettait des barrières, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et depuis Yitro, on n'avait même pas la ressource d'approcher Moshe dans le cadre d'un procès. Parce qu'il fallait un procès normal, ça passait devant un tribunal de première instance, et puis le cas échéant de deuxième instance, de troisième instance, etc. Des gens de responsables de dizaines, de cinquantaines, de centaines, etc. Et jusqu'à ce que pour les tout gros problèmes, on arrive chez Moshe Rabbeinu. Donc, monsieur tout le monde, il rencontrait jamais Moshe Rabbeinu. Il voulait peut-être qu'il le voyait de loin, mais il ne le rencontrait pas. Mais de facto, maintenant, ils vont tous se retrouver en présence de Moshe Rabbeinu et d'Aaron, et ils vont se présenter. Et donc, c'est un recensement, si vous voulez, on va avoir l'appartenance à la tribu, l'appartenance à l'intérieur de la tribu de famille, à la famille, etc. Les noms, je me confonds, les noms. Alors que dans le décompte à partir du Martita Shekel, il n'y a rien de plus ça. Le décompte à partir de Martita Shekel, il est complètement anonyme. On ne sait pas du tout qui est là. Je veux dire, on ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur appartenance, on ne sait pas par tribu, etc. On ne sait rien. Si vous voulez, ici, on compte, à la limite, on compte les têtes de pipe, quoi, mais c'est tout. Donc c'est ici ce dont on parle de compter par amour, effectivement. Il y a au moins deux sortes de comptes. Il y a un compte anonyme et puis il y a un compte qui est extrêmement personnalisé. Il est clair que s'il y a deux façons de compter, il doit se demander pourquoi il y en a deux et à quoi elles correspondent. Alors, compter de façon anonyme, c'est-à-dire qu'en fait, la personnalité des gens n'apparaît pas du tout. Tout le monde est à la même enseigne. Il n'y a même plus de différence entre les tribus, etc. Ça, c'est un conte, vous voulez, qui est vraiment à sa place en période de crise. En période de crise, il faut mobiliser tout le monde, comme on dit, même Hatan et Kala, ils sortent de la Choupa et ils vont faire la guerre, quoi, par exemple. Période de crise. Or, le conte de Hatzidachekel, il est après la tragédie, enfin, dans la suite de la crise ouverte par le Vaudor. Bon, même si, au moment où on fait construire le Mishkan, c'est juste après le Vaudor. Donc, on est en plein dans le Vaudor. Donc, c'est la crise. En période de crise, on n'a pas le temps de regarder chacun, etc. Donc, tout le monde doit faire la même chose, en fait. C'est, tout le monde met les mêmes masques, tout le monde doit respecter les mêmes lois, etc. Il n'y a pas de place pour une personnalisation des choses. Mais en temps normal, et là on est plutôt en temps normal, on doit justement laisser une beaucoup plus grande liberté. C'est-à-dire qu'en fait, le clan Israël, il a besoin de cette diversité qu'il y aura grâce au fait que chacun est vu comme quelqu'un d'extrêmement, de tout à fait spécial, quelqu'un qui appartient à telle famille, qui appartient à telle tribu, etc. Donc elle a tout un pédigré spécial, chacun. Elle a avec ses capacités spécifiques. Et donc ça met en avant la notion de personnalité. Et donc en vérité, le clan Israël en temps normal, il est comme ça. Il est. Et chacun doit pouvoir s'exprimer et exprimer sa spécificité. Donc les gens sont tous différents. Alors bien entendu, il faut qu'il y ait quelque chose de commun qui les unisse. On veut cette diversité, mais on veut que tout ça s'unifie d'une certaine manière, se retrouve de façon harmonieuse. Alors qu'en période de crise, il n'y a pas de place pour la spécificité, tout le monde est sur le pont, quoi, et tout le monde à la même enseigne. Donc ces deux dénombrements, ces deux sortes de dénombrements, nous enseignent quelque chose sur ce que doit être le clan Israël. C'est quelque chose qui, bon, on en a déjà parlé, on en reparlera dans d'autres cadres. Le clan Israël, il n'est jamais sorti, si vous voulez, d'une définition tribale, quoi. Même quand on est arrivé en Eretz Israël, on aurait pu penser, voilà, ben maintenant, on va partager la terre d'Israël entre les Bnei Israël. Pour que chacun puisse choisir son endroit. Non, on a partagé Eretz Israël en fonction des tribus. On a attribué à chaque tribu une partie de la terre dont on pensait qu'elle était adéquate pour caractéristiques de la tribu, et à l'intérieur de la tribu, on a partagé les terres de la tribu entre les différentes familles. Ça donnait les fameux champs patrimoniaux, etc. Donc on a, même là, on n'a jamais arrêté. Dans le schisme consécutif après la mort de Shlomo HaMelech, quand il y a eu ce schisme en deux royaumes, un côté Yehuda, Binyamin et un peu de Menaché, et de l'autre côté tous les autres, c'était toujours en termes de tribus. Et d'ailleurs, le royaume qui était le plus tribal, plus de tribus, celui qui a le plus rapidement disparu, puisque ce royaume, c'est le royaume du Nord, et Saint-Pierre-Rive, ils ont perdu la guerre contre Saint-Pierre-Rive, et Saint-Pierre-Rive les a exilés, et on a perdu la trace des fameuses 10 tribus. Discussion, est-ce qu'on va les retrouver ou pas, peu importe, mais en tout cas, on les a pas.
Je ne sais pas si aujourd'hui c'est les plus tribales.
Parce qu'il y avait plus de tribus.
Ah, il y en avait plus.
Là-bas,
D'accord.
il y avait, d'un côté, il y a 2 tribus et demie, et toutes les autres sont dans le royaume du Nord. Il y avait des réactions tribales. La fameuse histoire de la concubine, là, dans la tribu de Binyamin, où, effectivement, il y a eu une guerre civile, tout le monde contre Binyamin. Et après, ils avaient décidé que personne ne donnerait sa fille en mariage à quelqu'un de Binyamin. Et puis après, la tribu de Binyamin, elle a failli disparaître complètement. Après, ils ont fait un truc pour que, quand même, on remette les Binyaminites dans le circuit, quoi. Pas les Bnei Israël, nous, aujourd'hui, on porte le nom d'une tribu. On est Yehudaïm ou Yehudim, c'est Yehuda, c'est la tribu de Yehuda, qui était la tribu principale du royaume du Sud. Il y avait aussi la plus petite tribu de Binyamin et la moitié de Menaché, mais on porte le nom de Yehuda, la tribu, d'une tribu. C'est comme si, effectivement, on avait. Bien sûr qu'il y a probablement dans les Bnei Israël qui ont survécu, il y a probablement des gens de toutes les tribus. Parce que même si Sanhérib, il a exilé tous les gens du royaume du Nord, mais il y avait peut-être bien des gens du royaume du Nord qui étaient en business avec des gens du Sud et qui étaient là, qui ont réussi à s'échapper, qui se sont réfugiés d'une manière ou d'une autre et qui, à titre individuel, sont là. Parmi le royaume des gens du royaume du Sud, du royaume de Yehuda. Donc vraisemblablement, c'est pas qu'il y a plus trace du tout des tribus, mais en tant que telles, elles ont disparu. La Torah, elle donne beaucoup de. Elle va nous donner ensuite des explications. Donc, il y a ce décompte où on nous donne effectivement le nombre de personnes de chaque tribu. Et on nous dit aussi comment les tribus vont campé autour du Mishkan. Le Mishkan est au milieu, bien entendu, et autour, il y a un premier anneau, si vous voulez, qui est composé de la tribu de Lévi, et les gens de la tribu de Lévi, la tribu de Lévi, elle est divisée en familles, qui sont selon les descendants de Lévi, le fils de Jacob. Et eux aussi, ils sont répartis dans les 4 directions cardinales autour du Mishkan. Il y en a qui sont au nord, d'autres qui sont au sud, à l'est et à l'ouest. Puis il y a un anneau extérieur dans lequel il y a toutes les autres tribus. Et elles aussi sont réparties sur les 4 directions cardinales, comme il y a 12 tribus, eh bien c'est 4 fois 3, il y a dans chaque direction cardinale, et chaque point direction cardinale, il y a 3 tribus. Chaque fois, il y en a une qui est la tribu principale, peut-être Yehuda et Ephraïm, Dan, les Sophiens, Yehuda, ah, Reuven, Yehuda, Reuven, Ephraïm et Dan. Et puis chaque tribu principale est flanquée à gauche et à droite de deux tribus. Et ce triplet-là, ils sont toujours ensemble. Et ils campent comme de cette manière-là. Et puis après, si jamais, enfin, si jamais, les Bnei Israël vont se déplacer. Pour se déplacer, on va ouvrir les cercles. Question. Et puis, il va y avoir d'abord les deux premières tribus. Deux premiers groupes de trois tribus, donc. Le groupe Yehuda et le groupe Reuven. Après, il va y avoir dans cette chorégraphie, en quelque sorte, du clan Israël qui se déplace dans le désert, il va y avoir le Mishkan, puis après les deux autres groupes de trois tribus. C'est comme ça qu'ils vont circuler. Quand ils vont camper, de nouveau, on referme le cercle, les cercles. Donc il va y avoir, par exemple, certaines familles de Lévi qui vont être voisines de certains groupes de tribus plutôt que d'autres. Ceux qui sont au nord, dans l'anneau d'Elvim, bah, ils sont les voisins de ceux qui sont au nord, dans l'anneau des 12 tribus. La Torah, elle nous donne beaucoup de détails sur la façon de camper, cette manière-là, la façon de circuler dans le désert, etc. Et c'est très curieux parce que la Torah, elle, c'est un enseignement, mais on n'en a rien à faire de cet enseignement. Jamais plus on va retrouver cette structure qui était dans le désert. En Eretz Israël, on ne va pas du tout mettre le Beth Amikdash, il ne sera pas du tout construit au milieu des terres. Et puis bon, les tribus ne sont pas du tout regroupées de cette même manière. Il n'y a pas. Et donc on peut se demander finalement, mais qu'est-ce qu'on fait de cet enseignement? On est censé en faire quelque chose, mais c'est très, très très difficile, puisqu'il y a jamais de, il y aura plus jamais de situation, a priori, je ne sais pas ce qui se passera dans la file labo, mais et a priori, dans l'histoire, il n'y a pas eu, il n'y aura pas de situation où les Bnei Israël vont de nouveau se regrouper, camper, etc. Enfin, camper. Ouais, s'installer de cette manière-là. Et donc, on peut se demander à quoi servent ces versets-là. Torah ne va pas nous raconter les histoires du passé dont on n'a rien à faire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout les enseignements. Donc, ça veut dire que, quoi qu'il en soit, il y a à étudier cette façon de camper, façon d'organiser le clan Israël, et on est censé en tirer des règles d'organisation du clan Israël, pas obligatoirement dans l'espace, mais dans les types de relations, dans les fonctions, etc. Pourquoi c'est ces groupes de trois-là qui ont été choisis? On aurait pu partager 12 en 4 fois 3, ça peut se faire de pas mal de façons. Pourquoi c'est cette façon-là qui a été choisie? Pourquoi Yehuda, c'est Issachar et Zvouloun de part et d'autre? Oui. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que ça veut dire que faut analyser quelle est la caractéristique de Yehuda et pourquoi est-ce qu'il faut compléter la caractéristique de Yehuda avec celle de Issachar et Zvouloun, etc. Il y a des choses qu'on peut dire rapidement, qui viennent de façon facilement à l'esprit. D'autres choses, je ne sais pas du tout. Je connais, j'ai rien vu d'explication, j'ai pas vu d'explication de qu'est-ce qu'on peut en tirer. Je crois pas, je connais pas de texte qui nous dise plus avant à quoi ça sert tout ça. Mais ça fait partie du texte de Bamidbar et ça joue un rôle important, visiblement. En plus, si vous prenez le deuxième chapitre de Bamidbar, le chapitre commence Vaïdaber Hachem el Moshe vel Aaron les morts. Chapitre 2, verset 1. Et maintenant, verset 2. Il dit, Ish al diglo, ve'otot, ve'tavotam, yachanu, v'nei Israël, mineged, saviv le oel moed, yachanu. Donc, c'est l'introduction de ce que je vous ai dit que, qui va camper côté est, etc. Mais au début, on nous commence par nous dire que les Bnei Israël vont camper chacun sous sa bannière, sous son drapeau. Dégel. Tout un sujet qui s'appelle Dégel. Qu'est-ce que c'est que ces bannières? Qu'est-ce que c'est que ces drapeaux? Qu'est-ce que ça peut bien nous faire de dire que, OK, ils avaient des drapeaux. C'est quoi des drapeaux? Quelle est l'importance des drapeaux? Tout à coup, c'est fondamental. Chaque tribu avait son drapeau. C'est-à-dire, un drapeau, ça veut dire un tissu de couleur avec une forme, animale ou autre, avec des couleurs différentes. Donc, ça veut dire, quand vous avez tous les Bnei Israël, il y a partout les drapeaux. Ça.
Et au recensement qu'on a vu tout à l'heure, on prépare la guerre, peut-être.
Oui, alors le problème, c'est on pourrait dire, voilà, dans la guerre, en tout cas telle qu'elle était décrite auparavant, aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont encore des drapeaux, peut-être encore des drapeaux, et il y avait tout un problème, c'est de piquer les drapeaux des autres et ramener comme triomphe, preuve qu'on a gagné, c'est qu'on a pris leur drapeau, quoi. Mais les drapeaux, ils font. Quand je beaucoup va dire, Védiglou Ahava, ça veut dire que c'est les drapeaux qui représentent l'amour du clan Israël pour Hachem et réciproquement. On peut dire, ça contribue à la diversité du clan Israël avec toutes sortes de coureurs, de couleurs, de formes, etc. D'où ça vient cette histoire? Où est-ce qu'on a vu ça? Il y a un midrash qui dit que quand Akadosh Baruch Hu est descendu sur le Sinaï, bien entendu, il est descendu avec une multitude d'anges qui accompagnaient, évidemment, ça fait la cour, quoi, quelque part. Et ces anges-là avaient des drapeaux. Les Bnei Israël, quand ils ont vu les drapeaux, ils ont dit, nous aussi, on veut les drapeaux. Machin a dit, OK, vous allez avoir des drapeaux. Donc, les drapeaux viennent des drapeaux des anges. Enfin, l'idée vient des drapeaux des anges. A priori, les drapeaux des anges, ils viennent pas pour la guerre. On pourrait aller dans le sens suivant. On pourrait dire le mot miracle, un des termes pour dire le miracle, c'est le mot Ness. Et le Ness, c'est aussi un Ness, c'est aussi une bannière. Un Ness, c'est aussi un drapeau, quelque part. Pourquoi est-ce que le miracle s'appelle drapeau? Je vais vous parler comme ça, quel est le lien? C'est que, à quoi servent les nissim? Dans la mesure où, par rapport à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre un Ness et la loi ordinaire. Tout ça, c'est l'œuvre d'Hachem. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des endroits où on te dit, regarde ici, regarde là, C'est quelque chose à voir. Comme si, comme ça que le Ramban dit, comme si on met le doigt sur des nissim glouim, c'est-à-dire sur des miracles visibles, d'accord, pour qu'on comprenne qu'en réalité tout est miraculeux et que c'est toujours Hachem qui est à l'œuvre. De temps en temps, on a besoin d'une espèce de piqûre de rappel, et le Ness joue ce rôle de piqûre de rappel. Rappelez que voilà, ici, tu vois bien que c'est pas quelque chose d'ordinaire. Et donc, là, il y a une manifestation de la présence d'Hachem. Donc, il est clair que s'il y a présence d'Hachem ici, il y a aussi présence d'Hachem à côté, c'est pas... Et donc, on pourrait dire que le Ness, c'est une manif qui a pour but de dire aux gens qui voient cette bannière, ce drapeau, regarde ici, ça vaut la peine de regarder, il y a quelque chose à voir. Et donc ce serait ça, que ce soit au niveau des anges. Les anges, ils ont comme, chaque ange est en fait je pourrais dire, c'est une parole d'Hachem en réalité. Les anges sont la façon de dire que la parole d'Hachem va se réaliser. Les anges sont là. Alors il y a ceux qui sont là pour dire la louange d'Hachem, pour chanter les louanges, etc. Lorsque le monde a été créé, comme dit Hachem, pour ma gloire, j'ai créé le monde, l'Ephrodi, pour mon kavod. Hachem a créé le monde pour avoir du kavod. Le kavod, ce sont les hommes, ou éventuellement les anges qui vont le lui donner. Et donc, chacun a une fonction particulière. Donc, c'est comme si chacun va avoir, dans un orchestre, il joue un certain instrument avec peut-être une partition particulière qui est sa contribution à l'ensemble. Eh bien, c'est la même chose que ce soit au niveau des anges ou au niveau des Bnei Israël, et à l'échelle un peu plus collective, à l'échelle des tribus, quand chaque tribu a une fonction bien particulière, une façon de servir Hachem à sa manière. C'est ça la diversité. C'est justement cette chose qui est extrêmement, visiblement très très difficile pour les gens, c'est de comprendre que notre tension, enfin de qu'on a tort de penser qu'on est les seuls à avoir la bonne façon de servir Hachem, mais que si c'est pas comme nous, alors c'est mauvais. Non, c'est pas vrai. Il y a plusieurs façons, il y a probablement une infinité de façons de servir Hachem, qui sont peut-être pas toutes radicalement différentes, mais même un peu différentes à chaque fois. Et c'est fondamental, c'est tout à fait logique, tout à fait normal de comprendre que on ne peut pas servir Hachem d'une seule manière. Et qu'en vérité, même si on a une pluralité, même si on a une grande diversité, ce sera jamais assez. Bon, pour jamais dire toute la louange d'Hachem, même si on s'y met à des milliards. Mais on peut aller un peu dans ce sens-là, et peut-être qu'on peut dire que les drapeaux, ils viennent dire ça. Ils viennent dire, regarde ici, il y a quelque chose de particulier. Alors, on nous aide à voir un peu quelle est la particularité en nous disant, voilà, cette particularité, vous connaissez, c'est comme dans le portrait chinois, quoi. Si c'était une couleur, ça serait la couleur, ici, ça serait la couleur bleue. Et si c'était un animal, ce serait une biche. Et si c'était, je sais pas, végétal, ce serait, je sais pas, un concombre. Et si c'était un minéral, ce serait une pierre turquoise ou une, etc. On peut imaginer toutes ces choses-là. Et donc, une partie de ces choses-là vont s'exprimer dans le drapeau. Vous imaginez que le drapeau, il dit quelque chose de fondamental sur la tribu qui a choisi enfin, choisi ou auquel on a attribué ce drapeau-là. Voilà ce que je pourrais dire sur les drapeaux, sur ce que sont les drapeaux. Hachem dit, voilà, sous ces drapeaux-là, c'est une façon de manifester l'amour du clan d'Israël pour Hachem. Et c'est aussi sur le modèle de la manifestation par les anges de leur amour pour Hachem, enfin du kavod, etc., qu'ils veulent donner, ce qu'il faut donner à Kadosh Baroukh Hou. Donc, ensuite, alors je ne sais pas expliquer pourquoi Yehuda doit être à l'est. On peut dire, évidemment, c'est le soleil levant et tout ce que vous voulez, mais c'est un commencement. Pourquoi la tribu principale dans le triplet, c'est le triplet Yehuda qui est à l'est. Après, ça tourne, Reuven, comme on a vu, Ephraïm et Dan. Alors ensuite, il y a voilà. Ensuite, il y a la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, elle a un statut à part. Hachem dit à si vous prenez la quatrième montée, c'est-à-dire le début du troisième pérec, Ve'ele toldot Aaron ou Moshe, voici les engendrements donc de Aaron et Moshe, Ve'yom diber Hashem et Moshe ber Sinai, le jour où Hashem a parlé à Moshe sur le Sinai. Ve'ele shmot bnei Aaron. Et on a annoncé donc les toldot d'Aaron et de Moshe. Mais on énonce ici uniquement les enfants d'Aaron. Et voilà les noms des bnei Aaron. Il y en avait quatre. Bechor, c'est Nadav, Abihu, Elazar, et Itamar. Elle shmot bnei Aaron, Kohanim, Amshuchim, qui sont loin. Comme Kohanim, Asher Milei Yadam Lechaen, donc Akadosh Baruch Hu a choisi, enfin il leur a donné, bon, il les a qualifiés pour servir de Kohanim, et on dit voilà, Vayamot Nadav Abihu, Ifne Hashem. Et Akrivam Esh Zara Lifnei Hashem de Midbar Sinai ou Banim lo hayu lahem Vayechaen Elazar v'Itamar al pnei Aaron aviem. Ici, ce verset, il est très étrange. On sait que Nadav et Abihu, les deux fils d'Aaron, sont morts parce qu'ils ont apporté à l'inauguration du Mishkan, ils ont apporté un feu qui n'avait pas été prescrit. Et ils sont morts. Donc c'est marqué. Pourquoi ils sont morts? Vayamot, ils sont morts les deux. Berakrivam Esh Zara, Ifne Hashem, lorsqu'ils ont approché un feu étranger devant Hashem. Et si vous continuez dans le désert, et tout à coup on nous dit aussi, Ubanim lo hayu lahem. Et ils n'avaient pas d'enfants. Et donc ils ont été remplacés par Elazar et Itamar, leurs deux frères. C'est quoi? Il y a un Midrash qui dit que ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Comment on peut dire qu'ils sont morts comme ça? C'est écrit dans la Torah explicitement qu'ils sont morts parce qu'ils ont apporté un feu étranger. Pourquoi tout à coup dire qu'ils n'avaient pas d'enfant? Visiblement, ils n'avaient pas d'enfant parce qu'ils n'en voulaient pas, quoi, quelque part. Et c'était, alors, c'est aussi un élément, hein. Peut-être qu'il faut lire que, alors on peut dire, ils n'ont pas d'enfants et c'est pour ça que, comme ils n'ont pas d'enfants, ils ne peuvent pas être remplacés par leurs enfants, donc c'est leur frère qui les remplace. Sinon, on aurait dit, ils ont été remplacés par leurs enfants. Mais aussi, on peut dire que le fait de pas avoir voulu d'enfants, disons, c'est comme ça que c'est présenté par ce midrash. C'est penser que on n'a pas besoin de ce que les enfants apportent à leurs parents. Parce que il y a aussi une composante, les enfants, ils sont souvent un miroir. Pour les parents voient dans leurs enfants certaines choses qui sont des défauts, et donc ça peut les aider à s'améliorer. Et donc quand tu veux pas d'enfant, ça veut dire que tu veux pas qu'on t'aide, quoi, quelque part. Tu veux pas affronter tes défauts. Alors, ceci étant, ça c'est les Kohanim. Il n'y avait pas beaucoup de Kohanim à ce moment-là, qu'on voyait, il y avait Aaron et ses quatre fils qui sont devenus Aaron et ses deux fils. C'est ça, les Kohanim. Alors, Hachem a dit à Moshe, Akrev et Maté Lévi, rapproche la tribu de Lévi qui n'a pas été comptée, elle n'a pas été comptée avec les autres. Ve'amata oto lifnei Aaron ha'Kohen, ve'yeshertu oto. Tu les mettras devant Aaron, ils vont servir. Alors, les Lévites vont un peu servir aussi, pas seulement ça, mais ils vont aussi servir les Kohanim. Bon, ils vont garder le Mishkan, etc. Il y avait déjà eu un compte à part des Lévites. Mais ici, on dit justement au verset, c'est quoi ce verset? 14, quelque chose comme ça. Oui. Dans le verset 14, Vaidaber Hashem el Moshe ve Midbar Sinai les morts, Ukod et bnei Levi, le Bet Avotam, le Mishpachotam, Kol Zachar mi ben Chodesh. Là, on va compter les bnei Levi à partir d'un mois. Les autres, on les a tous comptés à partir de l'âge de 20 ans. Eux, on les compte comme bébés, à partir d'un mois. Et le mot qui est utilisé ici pour dire compter, c'est pekod. Pekod, vous connaissez dans Yalev Yavo, parle aussi de, il y a aussi cette racine de poked. Poked, ça veut dire aussi rappeler, mentionner, souvenir. C'est aussi ici donner à chacun sa tâche. En hébreu moderne, un employé, c'est un pakid. Et kouvdalet, c'est la racine, donc, le code. Et donc, tu vas les compter, ce qui a été annoncé. Tu vas aussi les compter par famille. La famille de Kehat, par exemple, tu vas la compter à part, chaque famille. Parce qu'ils vont avoir des tâches différentes. En particulier, lorsque les Bnei Israël vont se déplacer, il va falloir démonter le Mishkan et le transporter. Les transporteurs, ceux qui vont porter le Mishkan, c'est les Lévites. C'est pas eux qui vont complètement démonter. Parce qu'il y a des parties dont on ne veut pas qu'ils les voient. Par exemple, Aaron, il ne devait pas le voir. Alors, c'est les Kohanim qui vont envelopper le Aaron dans une couverture bleue, relax, et puis complètement fermée, et ça va être remis à la tribu de Kehat, qui sont les porteurs du Aaron. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir pour essayer de voir. Donc, ils transportent quelque chose qui est complètement fermé. On veut pas, si vous voulez, mettre à nu en quelque sorte le Aaron. Il y a les Kohanim, non, les Kohanim, il faut bien que quelqu'un fasse le job. Alors c'est les Kohanim qui le font, et pas les Lévites. Et alors, Akadosh Baruch Hu dit à mon cher Rabbeinu ici, il lui dit, revenez un petit peu en arrière, le verset 11. Hachem dit, Vani, Iné, lakarti et alvim, mitor bnei Israël, j'ai pris l'élvim au sein des bnei Israël, tachat, en lieu et place de kol bechor, de tous les premiers-nés, par exemple, Peter Rechem, ceux qui ont ouvert les voies, ouvert la matrice, Ibn Israël va yoli alvi. Donc, un Bechor, c'est quelqu'un qui a passé en premier par les voies basses, qui est né par les voies basses. Lui, il a un din de Bechor. Et jusqu'à là, la avoda, le service d'Hachem, il se faisait par les prorotes. C'est les premiers-nés de chaque famille qui étaient les prêtres, en fait. Ce qui était très bien parce que ça faisait en sorte que toutes les familles étaient directement impliquées dans la Avoda. Seulement, les prorotes, ils ont participé au Vaudor. C'est quelqu'un qui a pratiqué Avoda Zara, il n'a pas le droit de travailler au Beth Amikdash. Un Kohen qui aurait fait par exemple, Avodah Zara, il est disqualifié. Donc, ils sont tous disqualifiés. Donc, il a fallu les remplacer. Et Hachem dit, voilà, j'ai remplacé les prorotes par les Lévites. Alors, a priori, ce serait idéal s'il y avait eu autant de Lévites que de prorotes. On aurait remplacé un Bechor par un Lévite. Alors, pourquoi est-ce que il faut remplacer les prorotes parce qu'Hachem dit l'élvim ayuli alvim, l'élvim sont à moi. Kili kol bechor b'yom akoti kol bechor b'eretz Mitzrayim. Az ikdashti li kol bechor b'Yisrael me'adam ad behemah li yiyu ani Hachem. C'est-à-dire, au moment où Hachem a frappé l'Égypte en tuant les premiers-nés, il a tué les premiers-nés aussi, pas seulement les premiers-nés humains, mais aussi les premiers-nés dans le monde animal, etc. Et Hachem dit, j'ai épargné les Bechorot, les premiers-nés des Bnei Israël, et du coup, ils m'appartiennent. Je les ai, normalement, ils auraient été détruits aussi comme les Égyptiens, et je les ai sauvés, donc ils sont à moi. Mais maintenant, ils se sont disqualifiés avec le veau d'or, et donc j'ai pris les Lévites, et je vais les substituer aux Prorotes. On va enlever la kedusha, en quelque sorte, des Prorotes, et on va la mettre sur les Lévites. Les Lévites vont jouer le même rôle. Et donc, du coup, ce sont les Lévites qui vont remplacer, donc qui vont servir Hachem. Les Kohanim, c'est une partie de la tribu de Lévi, hein, donc pas de problème. Et puis le problème qui va naître, c'est que il y a 273 Bechorot en plus que de Lévites. Les Lévites, ils sont 22 000. Et il y a 22 273 Bechorot. Donc on est un peu embêté, parce que bon, on peut, chaque Lévi va remplacer un Kohen, va remplacer un Bechor, mais qu'est-ce qu'on fait avec les 213? 73, 273. Alors Hachem va dire, voilà, pour chaque Bechor, on va dire que on va évaluer le travail ou je sais pas quoi, quelque chose du Bechor. Et on va dire que ça vaut 5 shekels. Et on va demander aux Lévi, en plus du boulot qu'ils font, que chacun fait comme remplaçant d'un Bechor, de prendre collectivement la charge des 273 Bechorot. Et on a évalué ces 273 à 273 fois 5 shkalim. Donc, on a prélevé cet argent et on l'a donné à Aaron. On l'a donné au Kohanim, si vous voulez. Enfin, au Levim. Levim. Donc, quelque part, c'est ça qui, voilà, cette idée-là que il faut racheter, en fait. Les prorotes avec de l'argent, puisqu'on n'a pas pu les racheter par substitution en faisant prendre leur travail par les lieux. Donc c'est comme ça que les lieux vont prendre ils vont prendre la suite. Ça, c'est, si vous voulez regarder le texte, c'est sous 44. Hachem dit à Moshe, tu prends les Lévim à la place de chaque premier-né, et le rachat des 273 personnes qui en plus prendra 5 shekels par tête. Le shekel, c'est toujours le shekel qu'on va peser, qui, par référence à celui qui, shekel à Kodesh, qu'on a parlé. Et tu donneras cet argent à Aaron et ses fils en tant que rachat pour ceux qui leur sont en excédent. Bon, c'est ce qui a été fait. Voilà donc tout ça, c'est les prémices de la suite du déplacement des Bnei Israël dans le désert. Il y a eu, ça aurait été à Dibrot, mais il y a eu le veau d'or. Donc ça fait partie de la suite des problèmes posés par le veau d'or, à savoir qu'on est obligé de changer les prorotes, les échanger contre les levim. Alors, bien, vous comprenez bien que on a donc remplacé quelque chose qui se faisait dans toutes les familles, parce que si ce n'était pas cette génération-là, alors c'est le cousin qui a un bechor, ou si ce n'est pas cette génération, ce sera la génération d'après. Donc, toutes les familles produisent des Kohanim, enfin des prêtres, quoi, quelque part. Et c'est-à-dire, le travail qui consiste à servir Hachem et à enseigner la Torah, c'était ça les deux fonctions des Kohanim, en fait, c'est ce travail-là, il est fait au nom de tout le peuple juif, en fait. C'est pour ça que on va donner aux Kohanim et aux Levim, on va leur donner toutes sortes de fameuses matanot, matanot Kehuna. Bon, chaque fois qu'on va faire la shrita d'un animal, on va en donner une partie aux Kohanim, etc. Parce qu'eux, ils n'ont pas de terre. Ils n'ont absolument pas de terre parce qu'ils sont requis en permanence. Vous devez être disponible pour servir Hachem. Donc, il n'y a pas. Les Levim vont avoir des villes, bien qu'ils ou bien qui dorment quelque part. Donc, ils vont avoir des villes, uniquement des villes, sans territoire. Avec juste autour de la ville, toujours autour de la ville, une ceinture verte et un peu de champs autour. C'est tout ce qu'ils auront. Ils vont avoir 42 villes. Comme ils vont aussi gérer les 6 villes refuges, donc ils vont gérer 48 villes. Ça, c'est les Levim qui vont. Lévi, pourquoi Lévi? Pourquoi la tribu de Lévi en particulier? Alors, c'est pas toujours très clair, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand Yaakov a compris qu'il devait descendre en Égypte, au nom de Yosef, donc, il a envoyé Yehuda en avance, c'est ce que dit le Passouk, envoyé Yehuda pour prendre les dispositions, c'est le roi Yehuda, donc, lui dit, tu es responsable, toi qui vas arranger, notre installation en Égypte. Tu descends et tu arranges. Mais il a aussi envoyé, ça c'est le Midrash, il dit, il a envoyé un Rosh Yeshiva aussi. Et le Rosh Yeshiva que Yaakov a envoyé, celui qui allait être Rosh Yeshiva en Égypte, c'est Lévi. C'est ce qui a donné à Lévi ce statut à part qui fait que les Lévites, par exemple, ils n'ont pas été réduits en esclavage. Que peut-être même les Égyptiens comprenaient que bon, les prêtres, ils avaient un statut à part. La vérité, c'est que Yosef aussi, quand il a imposé, tout ce qu'il a imposé, etc., il n'a pas touché au bien des prêtres en Égypte. Ben, eux, ils n'ont pas été réduits en esclavage par rapport à Pharaon. Voilà. Ça,
Merci.